Seigneur, on te remercie d'être là chaque jour avec nous, Seigneur. Puis plus particulièrement, Seigneur, quand on est rempli de l'Esprit, on goûte ta présence, on goûte ta puissance, on goûte tes délivrances, tes guérisons. On goûte, Seigneur, des choses extraordinaires par l'action de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'être présent encore ce matin, dans la louange, dans l'adoration. Puis merci, Seigneur, que tu vas être présent aussi dans le message. Parle à nos cœurs par ta parole. Elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous instruire dans la justice, puis nous corriger, puis qu'on puisse s'enligner, Seigneur, face à ta parole. Merci de ce que tu vas parler ce matin. On remet toutes nos vies entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu! On continue la série, une étude qu'on a commencée la dernière fois. Discerner nos ennemis, puis aujourd'hui, on est rendu à la portion sur les faux prophètes, mais la deuxième partie. Excusez-moi, parce que j'ai comme un restant de rhume de gorge, puis là, il est irrité à cause que je chante fort. Puis, des fois, ça peut... je peux graffiner. Ce qu'on apprend, frères et sœurs, là, ça fait partie de la parole de Dieu. C'est pour aiguiser notre discernement. Puis ça, là, je l'ai dit la dernière fois, Dieu veut aiguiser notre discernement, il veut renouveler notre intelligence afin qu'on comprenne, afin qu'on connaisse la volonté de Dieu. Puis Dieu a déjà donné dans sa parole tout ce qui fait partie de sa volonté. Tout ce qui est là dans le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance qu'il a faite avec nous. Puis tous les écrits de cette nouvelle alliance-là servent à nous solidifier. Les ministères dans l'Église, là, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. En vue du ministère, vous avez un ministère à accomplir, vous avez des services à accomplir pour Dieu. Puis les ministères de l'Église sont là pour perfectionner les saints pour que vous soyez tous rendus à la stature parfaite de Christ. Dieu veut vous amener à être des gens solides qui sont plus flottants à tout vent de doctrine, des gens qui connaissent la Bible, puis la parole de Dieu dit cela. Puis là, vous marchiez, vous allez marcher sans broncher. C'est ce que Dieu nous appelle à devenir comme Jésus. Le Saint-Esprit est en train d'agir pour nous transformer, mais le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous transformer. On continue l'étude sur les faux prophètes, mais la première question que je pose, est-ce biblique? Ou est-ce chrétien, ou est-ce un manque d'amour que de sonder ceux qui nous entourent et qui nous enseignent sur Dieu? Parce que des fois, non, faut pas juger rien. Faut pas juger, là. Faut pas. C'est comme parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent en arrière de cette phrase-là, ne jugez point. Mais est-ce que Dieu voulait dire ne discernez rien, sondez rien? Sonder, c'est comme analyser, mais veut pas, tu portes quand même pas un jugement pour une condamnation, mais tu juges pour dire si c'est un vrai ou si c'est un pas vrai. On constate, puis on fait un rapport de notre constat. Quand un policier remplit un constat après une infraction, il donne son ticket, puis après ça, il y a un rapport à faire. J'étais là, j'ai fait ça, j'ai pris au radar telle personne, puis là, il y a un constat, il constate. Il n'a pas jugé, il donne ce rapport-là après ça au juge. Si toi, tu n'as pas payé ton ticket, il va donner le constat au juge. Là, le juge va imposer un jugement sur ton offense. Mais le constat, c'est quand même une analyse des circonstances qui te permettent d'établir, oui, cette personne-là est en offense, puis elle devait manger un ticket de vitesse. Voyez-vous? Ce constat-là, c'est l'analyse que nous devons faire en tant que chrétiens. Puis c'est pas un manque d'amour, puis c'est pas un manque, parce que les chrétiens jugent pas. Oui, les chrétiens doivent juger ceux du dedans, puis les chrétiens analysent. L'homme spirituel juge de tout, puis il est lui-même. Tu vois, il y a des versets aussi qui appuient le jugement spirituel, pas pour nécessairement pour condamner, mais pour prendre de bonnes décisions, puis de réagir face aux choses qu'on rencontre. Notre étude aujourd'hui, qui est une suite de l'autre, là, provient des enseignements basés dans la première épître de Jean. dans les chapitres 4 et 5. Puis, comme par, je dirais pas par hasard, mais il y a un seul apôtre qui est surnommé l'apôtre de l'amour dans la Bible. C'était Jean, celui que le disciple que Jésus aimait, qui était accouché sur son ventre. Jésus l'aimait, ce disciple-là. Puis c'est lui, ce disciple-là, le disciple de l'amour, qui nous a donné les enseignements pour discerner les faux prophètes. Puis c'était pas un manque d'amour de le faire. C'est le disciple de l'amour qui a établi, il a partagé sa révélation qu'il a eue de Dieu. Puis il dit, si tu veux marcher dans l'amour de Dieu, en premier, tu dois discerner ces affaires-là. Puis il les a expliquées pour que on n'abandonne pas le Seigneur. Puis vous allez voir pourquoi. Jésus nous dit qu'on pouvait les reconnaître, les faux prophètes. On peut les reconnaître. Ah, ça, ça en est un. Ah, ça, ça en est un. On peut les reconnaître afin de s'éloigner d'eux. Dans Matthieu 7, 15, 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez. Ça se reconnaît. Tu n'as pas besoin de juger si longtemps que ça pour reconnaître un faux. Tu n'as pas besoin de faire un gros constat, une grosse analyse. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Jésus nous donne quand même dans sa parole tout ce qui est nécessaire pour discerner les vrais des faux. Comment discerner en 5 points les faux prophètes que nous voyons cette étude qui provient de la première épître de Jean dans les chapitres 4 et 5. Le premier verset dans 1 Jean 4, le verset 2. La première manière qu'on discerne si c'est un faux prophète ou un vrai, confesse-t-il Jésus-Christ? Juste avec cette première question-là, cette première révélation-là qu'on va voir, là, tu viens déjà de classer un paquet de religions, tu vois tout de suite qu'ils sont pas de Dieu parce qu'ils confessent pas Jésus-Christ dans leur religion. 1 Jean 4, 2, ça nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ qui est venu en chair est de Dieu. » Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue qui est maintenant dans le monde. Déjà dans le temps des apôtres, l'esprit de l'Antéchrist était déjà dans le monde. Sauf que la Bible nous parle de l'homme impie, d'un adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, puis lui-même va se proclamer Dieu. Cet impie-là, à la fin des temps, lui, il va séduire les nations, puis ils vont croire en lui, ils vont croire que c'est le Messie. Ça existait des faux prophètes dans ce temps-là, mais la Bible en annonce un qui est déjà là, mais qui s'est développé, puis ça va atteindre sa maturité lorsque Jésus va revenir. La question est-ce qu'il confesse que Jésus-Christ est venu en chair? Tous ceux qui ne croient pas que Jésus existait avant venir sur la terre, ils sont pas de Dieu. Parce que Jésus est venu en chair. Fait que là, tous les ceux qui renient, qui disent non, nous autres, notre religion, notre foi, appelez ça comme que vous voulez, notre relation avec les esprits maîtres ou les esprits guides nous amène pas à Jésus, on reconnaît pas que Jésus fait partie d'un moyen pour être sauvé. Fait que dans leur doctrine, ils s'inventent toutes sortes de doctrines, là comme l'hindouisme, là, ils ont 1000 dieux. Les Bouddhas, on va parler plutôt de réincarnation, puis de toutes sortes d'affaires de même. Les religions en général qui ne parlent pas de Jésus-Christ, tu peux tout de suite les mettre de côté. La parole de Dieu est claire, on va le voir dans d'autres versets, parce qu'ils vont dire que tous les dieux ou toutes les religions, ça revient à la même chose, parce qu'il y en a qui enseignent ces choses-là, puis qu'on peut être sauvé par n'importe quelle religion. Mais dans 1 Jean 2, 22, ça nous dit, pour compléter ce que je vous dis dans cette idée-là, là, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là, c'est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Voyez-vous, il n'y a pas juste un verset qui parle de cette idée-là, de ceux qui rejettent Jésus ou ceux qui le confessent. Comme nous, le monde évangélique, nous confessons que le salut est par le Messie, Yeshua Yamashia, Jésus-Christ de Nazareth. Le Messie était accompli il y a 2000 ans, on l'a saisi par la foi, nous croyons que c'est par lui que nous sommes sauvés, nous croyons qu'il est venu du Père, qu'il est venu à travers Marie, le Saint-Esprit de chez Marie, Jésus est venu au monde, nous croyons qu'il a accompli sa mission, nous croyons qu'il est ressuscité des morts, puis nous croyons qu'il est allé auprès de son Père. Nous croyons qu'il est venu en chair. Nous faisons partie de la foi biblique. Mais toutes les religions qui ne prêchent pas cette doctrine-là, cette pensée-là, c'est des religions antéchrist, que ça nous dit dans cette part de verset-là, dans ces deux versets-là. Si une personne est aveuglée par un démon ou une religion, elle ne pourra pas confesser que Jésus-Christ est Dieu ou qu'il est son Seigneur, puis ils choisiront de le renier. Puis des fois, c'est des gens qui ont entendu parler de Dieu, mais ils ne sont pas capables d'accepter que Jésus est vraiment le Messie, Jésus est le Créateur, Jésus est Dieu fait homme. Ils ne sont pas capables de confesser ça parce qu'ils sont comme aveuglés par un esprit ou par une religion. Parce qu'il y en a des gens qui sont venus au monde dans une autre religion, ils ont été endoctrinés dans une autre doctrine, puis ils sont comme rendus aveugles. Ils ont appris une vaine manière de vivre, héritée de leur père, puis ça les empêche de venir à Christ. Ça, c'est à part que les esprits travaillent pour empêcher le monde de venir à Christ. Puis il est important que tout le monde passe par le Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel, d'aller dans le paradis, puis de vivre éternellement, que de passer par Jésus-Christ. Fait que là, il y a des gens, dans 2 Pierre 2, qui nous parle de ce verset-là, au verset 1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Une secte pernicieuse, c'est une secte qui mène à la perdition, qui va vous entraîner à être perdu, à perdre votre salut. Ça dit parmi vous. Il y aura de même parmi vous. Ils vont s'infiltrer parmi les chrétiens pour enseigner ces faussetés-là. Puis il faut faire attention, parce que c'est en train de se produire aujourd'hui, puis je vais vous en parler à la fin. Puis dans leur secte de perdition, ils vont renier le maître qui les a rachetés. C'est qui le maître qui les a rachetés? C'est qui le maître qui nous a rachetés? C'est Jésus-Christ. Dans leur doctrine de division dans le corps de Christ, ils veulent diviser le corps de Christ pour les amener à croire à quelque chose qui renie le Christ. Hey, c'est fort. Puis ça s'infiltre dans l'Église du Seigneur, puis sont animés d'un autre esprit. C'est pour ça qu'on a parlé dans la dernière étude, là. C'est pas parce qu'on voit un miracle que c'est automatiquement des enfants de Dieu. Il y a des gens qui prêchent des mensonges. Pourtant, on les aime parce qu'ils font partie peut-être de nos familles, ils font partie peut-être de nos amis, ils font partie peut-être de notre parenté, de nos voisins. Puis là, ils nous enseignent des affaires qui n'ont absolument pas de bon sens, puis ils essayent de nous convaincre à abandonner le Seigneur et à croire en leurs mensonges. Mais il faut faire attention, parce que moi, je me suis fait, dans mes membres de ma famille, des membres de ma famille, comme ma grand-mère, elle me dit, « Tu viendras pas nous changer de religion. » Puis là, après ça, ils vont dire de revenir à leur croyance puis à leur fausse doctrine qu'ils ont appris dès leur naissance. Pour eux autres, ils croient à ça. Mais ils vont essayer de déroger de là, s'il est possible. Mais si vous êtes ancré dans la parole de Dieu, vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, si vous vivez une relation avec le Seigneur, vous allez être capable de dire ce qui est vrai, puis de pouvoir dire non au mensonge. Il est important que vous appreniez à dire non à ce qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Ça dit qu'il y en aura des faux docteurs qui vont introduire des divisions pour amener les gens à perdition, puis renier le maître qui les a rachetés. C'est parce que c'est des gens sauvés en plus, parce qu'ils vont renier le maître qui les a rachetés. C'est des gens qui croyaient, qui avaient été rachetés, puis qui sont mis dans leur rébellion contre Dieu. Ils sont venus apostates, que la Bible a dit. L'apostasie, c'est ça. C'est de renier le Christ, de renier Dieu, de se tourner vers une autre religion. Ils vont attirer sur eux une ruine soudaine. La Bible, elle dit, il y a un seul chemin pour être sauvé. Il n'y a pas deux, il n'y a pas quatre, cinq. Un seul. C'est pas nous qui décident quel chemin qui sauve. C'est ça qui est le pire, parce que souvent on voudrait se dire, hey, moi j'aurais une religion encore bien plus simple que ça à faire. On a juste à dire qu'on s'aime, mais on n'est pas obligé de se forcer à changer rien. Restons comme qu'on est. Dieu, dans son amour, il va tout nous sauver pareil. Quelqu'un qui parle, il y en a qui pensent de même. Dieu va sauver tout le monde dans son amour. Il t'a accepté tel que t'es. Change rien dans ta vie. Puis fais juste t'aimer, puis t'es correct. Mais ça, c'est un chemin qui renie Dieu. Vous allez voir pourquoi que croire en d'autres choses que qu'est-ce que Jésus a enseigné, vous êtes en train de renier Dieu. Pourtant, il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. Dans 1 Timothée 2:5, ça nous dit, il y a juste un seul Dieu, puis il y a aussi un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, puis c'est Jésus-Christ homme. Il n'y a pas d'autre. Faut que tu passes par Jésus pour être sauvé. Ce qui arrive dans la doctrine, c'est qu'il y a des gens qui peuvent arriver à confesser, oui, je le crois que Jésus est venu en chair. Je le crois que Jésus est venu en Marie. Puis il y en a qui vont croire que Jésus est venu en Marie. Mais ils ignorent la portée des paroles de ce qu'ils sont en train de dire. Puis là, c'est pour ça que Jean nous a donné d'autres points de discernement. Il n'y a pas juste le point « est-ce qu'il confesse Jésus? » Parce que c'est pas tout le monde qui confesse le nom de Jésus qui vont entrer. Il y en a qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait chasser des démons par ton nom? Jésus va leur dire, je vous connais pas, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Donc, il n'y a pas juste le fait de le confesser qui fait que tu es automatiquement sauvé. Ceux qui le confessent pas, c'est déjà réglé. Tu peux les tasser facilement. Cette religion-là confesse pas que Jésus est Dieu, qui est venu en forme humaine, puis qui est mort pour notre salut. S'ils confessent pas ça, c'est facile à tasser. Mais là, on va voir un deuxième point de discernement donné par l'apôtre Jean, le disciple de l'amour. Est-ce qu'il écoute et dise Amen à la sainte doctrine? Deuxième point pour discerner s'ils sont de Dieu ou pas. 1 Jean 4:6. Allez lire ce passage-là, c'est un autre beau verset. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité ou l'esprit de l'erreur. Fait qu'il y a des gens qui sont animés d'esprit, mais pas le Saint-Esprit. D'autres esprits, des esprits de religion quelconque, ils peuvent confesser, « Ah oui, on le sait que Jésus est venu en forme humaine. » On le sait, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Puis là, comment se fait pour savoir si c'est pas le vrai esprit qui est dans lui? Mais parle-y de la sainte doctrine, parle-y de la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible déclare sur certains sujets, puis tu vas le voir s'ils reçoivent ce que t'enseignes. S'ils sont, oh non, non, le salut est aussi par Marie qui est médiatrice, que tu peux prier les morts, puis tu vas faire beaucoup de bonnes œuvres, puis tu vas gagner ton ciel, tu vas rester moins longtemps dans le purgatoire, puis là tu sais, toutes les doctrines fausses, c'est pas le Saint-Esprit qui enseigne ça, c'est l'esprit de l'erreur qui enseigne ces doctrines-là. Le vrai, l'Esprit Saint, va t'enseigner qu'il n'y a pas d'autre chemin que Dieu seul, par son Fils Jésus, puis que c'est pas toi qui as gagné ton ciel, c'est un cadeau qu'il te donne par la grâce, par le moyen de la foi que tu saisis, puis là, vu que tu t'es repenti pour le saisir, tu persévères jusqu'à la fin pour pas te laisser dérouter, puis garder la foi jusqu'à temps que Jésus vienne te rechercher. Puis là, ça n'a plus rapport à tes mérites, ça a rapport aux mérites que Jésus a tout accompli. Mais tu as un effort à faire pour garder ce que Dieu t'a donné. Puis c'est là qu'est le chemin de la sanctification ou le chemin de persévérer jusqu'à la fin. C'est pas que tu gagnes ton ciel, c'est que c'est un cadeau qu'il te donne. Ça, c'est ce que il y a plein de versets qui nous enseignent cela. Fait que quand tu prêches la sainte doctrine aux gens, allez voir les témoins de Jéhovah, ils confessent que Jésus est venu v'là 2000 ans. Ils confessent pas, par contre, que Jésus est Dieu. Mais ils confessent qu'il est venu. Puis ils le reconnaissent comme un prophète, mais ils vont dire que c'est un ange. Jésus est un ange, c'est l'archange Michael qui a été incarné. C'est un mensonge. C'est l'esprit de l'erreur qui enseigne ce mensonge-là. Après ça, tu lui parles, ouais, mais de quelle façon qu'ils gagnent le ciel? Mais dans leur doctrine, les témoins de Jéhovah ne vont pas au ciel. Les témoins de Jéhovah vivent sur la nouvelle terre. Il dit qu'il y en a juste 144 000 qui rentrent au ciel. Moi, je regrette, c'est pas ce que je vois dans la parole de Dieu. Dans le ciel, tu vas avoir une multitude innombrable qu'on ne peut calculer, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, qui se tiennent devant le trône. Dans le ciel, il va y avoir des milliards de croyants sauvés, puis qui vont être dans le paradis de Dieu. Sur une nouvelle terre, oui, mais pas sur cette terre ici. On parle, cette terre ici va disparaître, va être détruite, c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, puis il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, puis ça va être différent que le système qu'on a présentement, puis on va vivre éternellement dans la ville sainte qui va descendre d'auprès du ciel, puis l'arbre de vie qui va être au milieu du fleuve, puis ça va être extraordinaire. Elle dit, les rues sont pavées d'or, les murs sont comme du cristal transparent, les portes, c'est comme des perles. Puis c'est une immense ville de 1200 kilomètres de long, 1200 kilomètres de large, 1200 kilomètres de haut. Puis comme je vous disais tantôt, ça sera hot que Dieu soit obligé de faire un agrandissement à sa ville sainte parce qu'il va y avoir plus de sauvés que prévu. Non, Dieu avait tout prévu. C'est juste une farce. Mais c'est pour vous dire, la parole de Dieu, là, est claire sur les sujets. Puis quand vous amenez les versets de la parole de Dieu aux gens, est-ce qu'ils nous écoutent? S'ils disent pas amen à ce que vous êtes en train de dire, pourtant, vous leur montrez le verset noir sur blanc. Je le sais, je l'ai fait. Puis là, il sort son livre, la tour de garde, puis là, il dit, ah oui, garde, c'est écrit ici. Ils suivent un livre qui vient de leur religion, plutôt que de référer au verset de la parole. Ils disent, c'est écrit par des hommes. Ils disent, non, mais t'es pas témoin de Jéhovah. D'autres vont dire c'est écrit par des hommes. Oui, puis c'est vrai que c'est écrit par des hommes, mais c'est inspiré par Dieu. Le Saint-Esprit a parlé pour donner les versets, les écrits qu'on a besoin, qui sont une parole qui vient de Dieu pour nous édifier, nous construire, nous fortifier dans le Seigneur. Il dit dans 1 Jean 4, 6, là, celui qui nous... par là, nous connaissons l'esprit de la vérité puis l'esprit de l'erreur. Fait que des gens animés de d'autres esprits, il y en a plein autour de nous. Chaque religion a ses esprits. Pensez pas que les sacrifices qu'on offre dans les religions, qu'on les offre pas à quelque chose. Les sacrifices que les religions offrent, l'offrent à leurs démons. Ils les offrent pas à Dieu. C'est des temples, soit des temples d'idoles, remplis de statues, remplis d'images, puis c'est des cultes aux idoles qui sont une abomination à Dieu, puis c'est dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, que Paul dit. C'est des temples de démons. Ils rendent des cultes, puis ils sont liés par le diable, qui est le prince des ténèbres, puis ils ont rendu liés par les religions, la multitude de la planète en entier, qui sont liés puis sont sous la puissance du malin. C'est pas des farces. On est venu au monde dans une religion. Nous autres, ici au Québec, c'était la religion catholique. Si tu serais venu au monde anglophone, tu serais venu au monde en religion protestante. Si tu serais venu en Afrique, tu serais un voodooisant. Il y a des vaudous, il y a des sorciers, il y a des... toutes sortes de choses occultes qui sont priées. Ça se peut que tu sois venu au monde dans une famille chrétienne. Gloire à Dieu, si tu es venu au monde dans une famille qui est déjà convertie au Seigneur et qui marche dans l'esprit de vérité. Mais ça ne veut pas dire que tu es automatiquement sauvé. Il faut que tu l'acceptes toi aussi. Puis il faut que tu le reçoives. Parce que c'est à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, que ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le faux ne supporte pas la sainte doctrine. Puis ils se sont donnés toutes sortes de religions adaptées pour eux. C'est ce qu'on voit dans 2 Timothée 4, 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ce qu'ils entendent de la sainte Bible, de la sainte parole de Dieu, ils la supporteront pas. Mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, puis ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre plaisir, leur propre désir. Ils désirent entendre des choses agréables, fait qu'ils vont abandonner la Bible, ils vont abandonner les enseignements de la parole de Dieu. Là, ils se mettent à croire en toutes sortes d'affaires qui sont antibibliques. Toutes sortes de religions, les gens des esprits qui sont dans ces autres religions-là entraînent les gens à croire en des mensonges. Ils vont détourner l'oreille de la vérité, puis ils se tourneront vers les fables. C'est quoi une fable? C'est une histoire fausse. C'est une histoire inventée pour essayer de t'enseigner des belles vertus. Mais en réalité, c'est toute la fiction. Là, ils ne supportent pas la sainte doctrine qui est la vérité. Mais ils veulent entendre des choses qui leur font plaisir. Ils se donnent une foule de docteurs, une foule de personnes qui enseignent toutes sortes de belles affaires. Là, ils cherchent, ils trouvent des lits. Ah, oh, lui, il a une belle idée sur « Oh, moi, je pense de même. » Mettons, le nouvel âge. Moi, je crois qu'on est tous Dieu. On est tous des dieux. On marche en communion avec le Dieu de la création de l'univers. Ils peuvent confesser qu'un Dieu est venu. Puis là, ils vont dire... Ah oui, cet esprit guide-là que j'ai reçu, je suis en communion avec la nature, en communion avec les arbres, je suis Dieu. Puis là, ça fait plaisir d'entendre ça. Là. C'est la même idée que le diable avait dit à Adam et Ève. Si t'en manges, tu vas devenir comme Dieu. Puis l'idée de vouloir être comme Dieu, les religions, il y en a plein de ça qui enseignent ça. Puis ils sont comme trompés par un... Ils ont désir d'entendre des belles affaires, puis on est tous Dieu. Puis il faut rehausser notre moi, puis il faut... Tu sais, avec toutes les philosophies qu'on entend aujourd'hui, là, on s'établit sur l'accomplissement de notre volonté ou de nos désirs ou de ce qu'on projette comme nos buts puis nos idées personnelles. Puis là, ils travaillent à accomplir leurs rêves. Aujourd'hui, c'est une philosophie, mais qui est très répandue. Ça fait pas partie de la parole de Dieu. Parce que quand tu viens à Christ, c'est qu'il faut que tu meurs à toi-même. Puis là, tu demandes au Seigneur, « Quel est ton plan pour moi, Seigneur? » On n'est plus là pour suivre notre idée, mais dans leur religion, les gens suivent leur désir. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils désirent, « Oh oui, je vais accomplir mon désir. » Puis là, ils désirent. Puis ça ne fait pas leurs affaires d'aller à l'église à sa rue La Chapelle à Saint-Rémy. Ils veulent pas entendre la parole de Dieu, fait qu'ils vont aller consulter un gourou, puis un autre va consulter une autre sorte de religion parce que ça semble plus le fun, plus selon leur idée. Ils sont aveuglés. Les chrétiens sont appelés à dire non aux fausses doctrines. Puis là, dans Galates 1:6, Paul, il mentionne à Galates, « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y en ait un autre évangile, parce que Dieu n'a pas donné deux évangiles. N'ayez qu'une vraie évangile. Les autres, c'est des fausses. Mais il y a des gens qui vous troublent et veulent renverser l'évangile de Christ. Puis là, Paul, il met quelque chose de bien précis dans ce verset-là. Mais quand même, quand nous-mêmes, il dit, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit, excommunié. Il dit, même si ça sera nous autres, là, quand nous-mêmes, ou même un ange, vous apparaîtra, puis vous annonce un autre plan du salut que le plan du salut que Paul avait annoncé, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La parole de Dieu est quand même tranchant. Si c'est blanc, c'est pas gris, c'est pas rose, parce que tu peux, à partir du blanc, commencer à teinter en différentes couleurs. Tu peux t'en aller vers le gris, tu peux t'en aller vers le rose, tu peux t'en aller vers le jaune pâle, tu peux t'en aller vers le vin pâle, après ça, avant d'atteindre le vin foncé. Si c'est blanc, c'est blanc. Si la Bible a dit noir, c'est noir. Ça, c'est la sainte doctrine. Ce qui fait qu'on a de la misère à envaler le noir quand la Bible a dit que c'est noir. C'est nous là, qui a de la misère à gérer, on a de la misère à accepter, on a de la misère à soumettre à qu'est-ce que Dieu dit. Parce que Dieu, s'il dit que c'est ça, c'est ça. C'est mon idée qui est pas bonne. Mais si moi, je dis, mais ça, ce verset-là, c'était dans ce temps-là. Or, ça, dans ce verset-là, faut comprendre que c'était pas vraiment pour nous, là. C'était culturel. Là, on se met des excuses. Puis là, mais ça, il y a eu une évolution là depuis le temps qu'on est chrétien. Là. Ça fait 2000 ans, là, faut évoluer. On est à l'an 2012, là. Faut évoluer, changer notre idée, puis faut être un peu plus ouvert. Non, non. Tout ça, là, c'est tout des mensonges du diable. Qu'est-ce que Jésus a dit de sa parole? Il a dit qu'elle demeure éternellement. Il n'y aura même pas un iota ou un trait de lettre qui vienne à disparaître, que tout va s'accomplir comme ça l'a été écrit. Il n'y a pas d'évolution de la parole, il n'y a pas de changement. Si c'est écrit noir, c'est noir. Mais ceux qui n'aiment pas la sainte doctrine, animés par un autre esprit ou aveuglés par leur religion, ils vont vous faire de l'opposition, puis c'est une manière de discerner si c'est des vrais ou des faux. Un vrai... Ah, c'est sûr, c'est une parole qui est dure, mais Seigneur, moi je prends qu'est-ce que tu me dis. C'est écrit ça, c'est ça. Un vrai, là, il accepte qu'est-ce qui est écrit, puis c'est... On n'est pas là pour juger si la parole de Dieu est acceptable. On est là pour la mettre en pratique. Amen. On n'est pas là pour voir si la parole de Dieu, ça a du bon sens, ça n'a pas de bon sens. On est là pour la mettre en pratique. Il faut retenir la sainte parole telle qu'elle a été enseignée, sinon on aura cru en vain. Ça veut dire quoi, se croire en vain? Cru inutilement, cru pour... Tout ce que vous avez cru, ça vous servira de rien si vous la suivez pas telle que c'était dit. Alors regardez dans 1 Corinthiens 15, verset 1, c'est exactement ce que Paul nous dit. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si... Moi, souvent, j'avais entendu par d'autres personnes, « Oh, il n'y a pas de conditions dans la Bible. Je regrette, la Bible est pleine de conditions. » Faites une recherche dans Bible Online, puis le mot « si » pour voir si combien de fois qu'il a pu être répété. Là. Des conditions, il y en a à tour de bras. « Si » Il y en a une drette là, là. Droit, pas drette là, ça n'existe pas en français. Il y en a une justement là. Vous êtes, et par laquelle vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Les gens, ils ont tout cru. Il dit, vous l'avez tout cru, vous l'avez tout reçu. Vous êtes sauvés, vous êtes persévérés là-dedans. Vous allez être sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Sinon, si tu changes les choses, tout ce que tu as appris ne servira à rien. Savez-vous c'est quoi le point qui est en train de changer, les Corinthiens, dans ce temps que Paul leur a dit ça? Il leur parlait de la résurrection. Là, il est en train de dire que la résurrection, il n'y en a pas de résurrection. Ils ont juste changé un élément. Mais s'il n'y a pas de résurrection, Jésus n'est jamais ressuscité. Si Jésus est ressuscité, on est encore dans nos péchés. Si on est encore dans nos péchés, il n'y a aucun moyen d'être sauvé. Puis Paul le dit, si vous changez la doctrine, là, vous aurez cru en vain. Ils n'ont pas dit que Jésus n'existait pas. Ils ont juste dit qu'il n'y avait pas de résurrection. Ça prend pas un gros changement pour commencer à dérailler de la sainte doctrine. Ça prend pas un gros changement pour dérailler de la sainte doctrine, puis commencer à croire en des menteries. Puis t'en acceptes une menterie, après ça t'en acceptes une deuxième, t'en acceptes une troisième. Ta vie est menée par des menteries, puis tu penses que t'as encore la bonne affaire. Parce que les gens sont, ils se croient pas dans l'erreur, là, quand les gens croient aux mensonges. Ils ont réellement vu un esprit leur apparaître dans leur chambre puis dire, je suis ta grand-mère qui est morte, puis je veux t'aider. Bon, ils ont vraiment vu la chose, puis ils l'ont vraiment cru, puis ils sont sincères dans leur croyance. Mais si elle dit pas, arrière de moi Satan, parce que la Bible dit que les morts sont dans le séjour des morts, puis ils peuvent pas revenir, puis là, si tu rejettes pas ça dans le nom de Jésus, tu vas être lié par un démon qui t'a apparu, puis tu vas être entraîné dans l'aveuglement spirituel, puis tu vas avoir des problèmes toute ta vie perdus. C'est pour ça qu'il faut que tu marches dans la vérité, dans les vraies affaires telles que la Bible a enseignées. Puis si vous avez des doutes sur des révélations ou sur des apparitions, allez voir quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, puis posez-y des questions pour savoir si votre expérience que vous avez vécue est biblique. Parce que ça peut être un rêve, ça peut être une vision. Puis des fois, là, il y en a qui ont des rêves et des visions qui ne viennent pas de Dieu. Puis ils croient ça, puis ils courent pour ça, puis c'était pas Dieu qui leur a dit ça. Puis si tu examines ça avec la Bible, c'est anti-biblique. Faut faire attention de rester. C'est-tu écrit? On le fait. Si c'est pas écrit, on rejette. Une caractéristique d'un vrai chrétien, là, il veut pas suivre une religion, il veut rester fidèle à la parole de Dieu. Dans Actes 17, 11, ça nous parle des gens de Bérée. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, puis ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça veut dire que quand tu es un vrai, là, tu veux les vraies affaires. Tu veux pas entendre des menteries. Tu veux être sûr de ce que tu entends. Tu vérifies. Si dans ce temps-là, voilà 2000 ans, ils étaient capables de lire leur Bible, puis là, ils l'ont vérifié, si c'était vrai, nous autres, la plupart d'ici, on sait toutes lire, nous aussi, on est capable de vérifier si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui va vous garder, votre sincérité, votre foi basée sur le roc. Pas sur le sable, sur le roc. C'est à quoi le roc dans cette parabole-là? C'est à sa parole. Il faut s'enraciner dans sa parole. Troisième point, là on a vu deux points de discernement. Confesses-tu Jésus? Y demeures-tu dans la parole de Dieu? Deux points, discerner tout de suite les vrais défauts. Écoutes-tu que ce qu'on dit? Ça veut dire qu'ils veulent rester dans la vérité, fait qu'ils vont écouter ce que tu dis. Troisième point de discerner, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que leurs œuvres sont manifestées par l'amour? Vous allez voir que dans 1 Jean 4, qui est encore Jean, l'apôtre de l'amour, qui nous dit de discerner ces choses-là. Hein? 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Oui, mais Seigneur, j'ai accepté. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Tu dis que tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu as une relation avec Dieu, tu marches en contact avec Dieu, puis tu blesses tout le monde, tu démolis tout le monde, tu t'écrases le monde quand tu marches, tu tasses, tu n'as aucun respect pour ton prochain. Tu n'es pas animé par le Saint-Esprit quand tu fais ça. Quelqu'un qui aime Dieu va marcher dans l'amour, puis quelqu'un qui marche pas dans l'amour, il connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour, puis Dieu nous enseigne de s'aimer les uns les autres. 1 Jean 2, 9, encore pour juste pour compléter l'idée que je suis en train de vous emporter, celui qui dit qu'il est dans la lumière, je suis dans la lumière, je marche dans la lumière, je suis en communion avec Dieu. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Savez-vous qu'en tant que chrétien, il n'y a aucune place pour la haine? Quand tu es chrétien, là, tu n'as pas le droit d'haïr ton frère. Tu n'as pas le droit même d'haïr ton ennemi. Il dit « Aimez vos ennemis, priez ». Tu peux haïr le péché, mais là, c'est pas une personne. Si tu dis que tu es dans la lumière, comme des faux prophètes, que j'ai entendu moi-même des gens qui faisaient des immenses miracles, puis là, remplis du Saint-Esprit, sont mis à maudire leurs ennemis. Tombe en bas de ta chaise. Quand t'entends ça, c'est pas le Saint-Esprit qui est en train de maudire ses ennemis. Cette personne-là n'est pas animée du Saint-Esprit, même ça me dira, « Oh oui, on garde les miracles, les guérisons. » Oublie ça. Il n'y a pas de personne remplie du Saint-Esprit qui va se mettre à maudire ses ennemis. C'est pas l'Esprit de Dieu qui n'est pas rempli de l'Esprit-Saint, parce que l'Esprit-Saint amène à aimer ton prochain. Puis de prier pour eux autres. Regardez bien ça, là. Celui qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Quel esprit qui agit sur cette personne-là qui haït son frère? C'est l'esprit des ténèbres qui aveugle ses yeux. Il sait même plus où s'en va. Il pense qu'il est juste devant Dieu d'haïr tout le monde qui l'entoure. Il pense qu'il fait bien de garder des rancunes. Oh, ma mère, elle me dit toutes sortes d'affaires depuis que je suis au monde. Je suis tanné de l'entendre me critiquer. Puis là, j'y parle plus. Puis on y en rajoute. Puis là, ils veulent plus. Ils veulent l'haïr. Ils haïssent. Ils aiment plus leur mère. Mais je vais vous dire qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils haïssent leurs proches, ils haïssent leurs parents, parce qu'ils se sont fait blesser. Dieu, il comprend qu'on s'est fait blesser, mais il veut pas qu'on haïsse personne. Si tu veux être animé de l'esprit de la lumière, l'esprit de Dieu, tu dois apprendre à pardonner, puis à demeurer dans le pardon, puis à prier pour les autres. Sinon, tu marches dans les ténèbres, puis ça l'aveugle tes yeux. C'est pas le Saint-Esprit qui aveugle les yeux, là. C'est l'Esprit des ténèbres. Il maïs. 1 Jean 3,14 qui continue encore dans la même lignée de pensée pour discerner. C'est tout l'apôtre de l'amour qui nous donne ça, là. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes des chrétiens parce que nous aimons les frères. Puis là, l'autre verset, c'est celui que je veux paiser le plus. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il est mort spirituellement. Il se pense en communion avec l'Esprit de Dieu. Puis tout ce qui sort de sa bouche, animé par sa haine, c'est l'enfer directement qui parle par sa bouche. Tu peux te dire, chrétien, tu penses que tu marches dans la lumière, puis t'aimes pas tout le monde qui sont autour de toi. Mais tu te trompes toi-même. Tu es un faux prophète, un faux frère. Parce qu'un vrai va vouloir aimer Dieu, va vouloir aimer tous ses frères et sœurs. Puis il dit même, c'est une preuve qu'on est passé de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Si vous aimez les uns les autres, c'est une preuve que vous êtes sauvés. Quiconque, ça veut dire peu importe comment tu t'appelles, là, est son frère. Est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Peu importe qui ce que tu commences, tu t'appelles, si tu n'as pas le droit en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, non seulement que tu n'as pas le droit, mais si tu es vraiment animé par l'Esprit de Dieu, tu vas chercher à te réconcilier avec celui qui t'a offensé. Qu'est-ce que Jésus a dit de faire? Quand tu viens présenter ton offrande, puis tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande, puis va te réconcilier avec ton frère, puis après, viens, puis présente ton offrande. Dieu n'est même pas intéressé d'entendre une offrande de quelqu'un qui est en train d'haïr son frère.
Mais il va plus loin que ça aussi.
Oui.
Parce qu'il dit ici, si tu as quelque chose contre ton frère, va régler tes choses, après ça vient.
Oui.
Mais il y a un autre passage qui dit, si même que tu es conscient que ton frère a quelque chose contre toi.
Ben c'est celui-là que ça dit ça. C'est dans celui-là qu'il dit ça. Il dit, je te rappelle que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Hein? Faut-tu prendre les devants afin que de ta part, tu règles tout, là. Tu as tout fait tes efforts. Tu as été le voir. Tu as demandé pardon. Tu pries pour lui. Après, tu es comme Dieu, là. Il voit que tu marches dans l'amour. Puis si l'autre t'a pas encore pardonné, bien, prie pour que Dieu y monte parce que lui, tout, est aveuglé par les ténèbres. Puis Dieu veut pas que cette personne-là soit perdue. Parce que j'ai déjà eu ça comme idée. Là, tu pries, là, pour quelqu'un que tu connais. Seigneur. Frappe-les, là. Mets de la pression dans sa vie. Brise-les, là, pour qu'ils se repentent. On est en train de lancer des sorts, là, quasiment, là. Quand on fait de la magie, on souhaite du mal à notre prochain pour essayer de l'emmener à repentance. Mais en réalité, de quoi est-ce qu'on est animé quand on pense comme ça? On n'est pas animé de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. C'est les pensées charnelles et diaboliques qui nous animent. De penser qu'on souhaite du malheur aux personnes pour que Dieu les frappe, pour que là, ils viennent en repentance. C'est pas de même que ça marche. Prie, puis il dit, fais-y du bien, puis prie, c'est des charbons ardents, tu ramasses sa terre. Pis on l'a vu l'autre jour, Clairement en a parlé, c'est à quoi les charbons ardents? Mais ça, c'est pas le feu de la géhenne qui va l'enflammer. C'est que ça va le, tellement l'effet des prières puis l'effet de la puissance de Dieu va faire effet dans sa vie, puis ça va comme le motiver à vouloir ou à pouvoir être changé. C'est quelque chose qui se produit là dans la personne parce que tu pries pour elle puis tu la bénis. Pas en y faisant du mal. Il dit pas rendez le mal pour le mal. Il dit faut-tu répondre au mal par du bien. Faut que ça soit des belles paroles, des bénédictions, des tu rends service, t'es en train de la bénir. Là, il va se passer quelque chose dans son cœur, puis ça n'aura pas été parce que t'auras été méchant, animé par les ténèbres.
Aussi que, quand quelqu'un t'a fait du tort, puis comme moi, il y a quelqu'un qui m'a fait du tort à l'ouvrage, puis j'ai décidé de plus lui parler.
C'est ça.
J'ai pardonné, mais j'ai décidé de plus lui parler. Là, ça l'a rendu fâché parce que je lui parlais plus. Puis, j'étais pas bien là-dedans parce que je voyais qu'il agissait comme mal envers moi, mais pourtant, c'est lui qui m'a fait du tort. Moi, je n'ai pas fait de tort, là. Puis, lundi, je suis allée le voir parce que je savais que je pourrais être en arrêt de travail. Je suis allée le voir, puis j'ai dit, Alba, j'ai dit, je te pardonne pour qu'est-ce que tu m'as fait.
Gloire à Dieu.
J'ai dit, je te pardonne pour qu'est-ce que tu m'as fait. J'ai dit, t'es ici, j'ai dit, je fais le moins bien, j'ai dit, j'ai pas le goût de jaser, mais j'ai dit, je te pardonne pour qu'est-ce que tu m'as fait. Le lendemain, il a passé des bonbons à tout le monde, puis il m'a donné un sousson. Là, j'ai vu que ça y avait fait du bien que je l'avais pardonné. J'ai remercié le Seigneur pour ça, parce que même si
on les relâche,
même si on sait qu'on n'a peut-être pas tort, puis que c'est pas nous, mais on doit lui dire, ben, je te pardonne, qu'est-ce que tu m'as fait? Même si je t'ai pardonné, puis je n'ai pas dit, on doit lui dire aussi que je t'ai pardonné, qu'est-ce que tu as fait?
C'est ça. C'est là qu'on est des enfants de lumière. Quand on marche dans la lumière, puis qu'on fait ce que Dieu nous demande, on démontre qu'on aime le monde par l'esprit de vérité. Puis celui qui fait pas ça, qui veut pas le faire, puis qui s'entête, puis qui continue à pousser dans le mal, il est animé d'un esprit qui le tient aveugle, puis il marche dans les ténèbres. Puis en continuant, il dit, dans le verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier, puis vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Si puis là, il parle du bien qu'on peut faire. Puis au verset 18, il dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. » Puis là, le verset 19, il conclut, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Si tu es capable de marcher dans la lumière, par là, tu vas reconnaître que tu es de la vérité. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Un faux prophète, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Puis dans ce verset-là, ça dit, tu vas reconnaître que tu es dans la vérité quand tu es capable de le faire, ça. Ça se reconnaît par tes agissements. Là, on a vu trois points pour discerner le faux. Il ne confesse pas Jésus, ne demeure pas dans cinq doctrines, puis il ne marche pas dans l'amour. Quatrième point, a-t-il l'Esprit de Dieu? Vous allez voir, c'est une question. Dans 1 Jean 4:13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Voyez-vous, si tu veux savoir si tu es vraiment en lui, as-tu reçu son esprit? Puis ça, là, la question se pose. L'apôtre Paul l'a déjà posé, cette question-là, dans Acte 19:2, il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » La question se pose. Puis il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Wow! C'est grave, là. La personne, là, peut être assise dans l'église. Elle était dans une réunion de prière, là. Ce groupe de personnes-là était dans une réunion de prière. Puis l'Esprit de Dieu tapait dans leur vie. Puis Paul l'a remarqué, ça se vouait. Il est allé voir. Coudon, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On n'a jamais entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. De quel baptême vous avez été baptisé? Du baptême de Jean-Baptiste. Ah! Jean-Baptiste, lui, il a baptisé dans le but d'amener les gens à Jésus. Là, ils ont fait leur confesser. Ils ont été rebaptisés dans le nom de Jésus. Il a prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. La puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. La question se pose pas à cause que tu vois des gens assis dans l'église qu'il faut dire tout de suite, oh, ils sont tous chrétiens. Non. Ils ont peut-être jamais passé par la nouvelle naissance. Aussi bon gars qu'on peut s'être, même si j'irai à l'assemblée régulièrement, si j'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne suis pas son enfant. Il est nécessaire de vivre une nouvelle naissance puis d'avoir une relation avec le Saint-Esprit pour dire que tu es un vrai disciple, tu es un vrai chrétien ou un vrai enseignant. Dans Jean 3:5, il nous parle justement de ça. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les faux prophètes qui n'ont pas passé par cette nouvelle naissance-là ne peuvent pas, tu peux pas, en les regardant, qui n'ont pas reçu Saint-Esprit, tu peux pas dire, c'est des vrais. Faut que tu sondes savoir, ils l'ont-tu reçu? Là, tu lui poses la question, écoutez bien celle-là. Moi, nous autres, à la station de radio, à Montréal, il y a des gens qui demandent d'être animateurs pour faire des émissions. Nous autres, on est une station de radio chrétienne. On n'est pas une station de radio du monde. Ce qu'on veut, des gens qui ont laissé le micro, on veut que ce soit des chrétiens authentiques, puis ils savent c'est quoi la parole de Dieu pour être capable de pas dire n'importe quoi, là, en nombre. Là, on s'assied avec les personnes, puis on les questionne. Sur quoi tu te bases pour dire que tu es chrétien, que tu es sauvé? Ça, là, je parle à c'est des chrétiens, là, qui viennent devant nous, des gens qui viennent des églises qui nous entourent. Là, les gens donnent leur réponse sur quoi qu'ils se basent pour se dire qu'ils sont chrétiens. Il y en a là-dedans qui sont même pas capables d'expliquer le plan du salut. Il y en a là-dedans qui ont jamais reçu le Saint-Esprit. Il y en a un là-dedans, entre autres, lui dit, j'ai reçu Dieu le Père par l'imposition des mains d'un curé catholique. Ouais, mais t'as-tu confessé que Jésus est mort sur la croix pour pardonner? Non. Pas besoin de confesser. Veux-tu le confesser? Non. Moi, j'ai déjà reçu le Père par l'imposition des mains d'un curé catholique. Là, j'en demandais, tu veux-tu qu'on fasse la prière pour que tu confesses que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés? Parce que si tu passes pas par le pardon de tes péchés, tu peux pas recevoir le Saint-Esprit. On va le voir dans un autre passage. La personne, non, elle disait qu'elle avait reçu le Père. Cette personne-là était dans une église évangélique. Une église chrétienne évangélique elle s'est faite baptiser d'eau dans une église chrétienne évangélique, puis cette personne-là croit qu'elle est sauvée parce qu'elle a eu une expérience spirituelle de recevoir un esprit par l'imposition des mains d'un curé catholique sans confesser que c'est Jésus qui avait pardonné ses péchés, sans mettre sa foi en Jésus. C'était direct un esprit qui rentrait dans son ventre, puis il pensait qu'il était sauvé. Puis on essayait d'y expliquer, ça ne rentrait pas. Il ne comprenait rien de ce qu'on lui disait. T'as voilé, c'est ça que je disais tantôt, quand tu marches dans les ténèbres, tu es aveuglé par l'esprit de ta fausseté. Puis, il y en a d'autres, là, qui sont incapables d'expliquer le plan du salut, ils ne savent pas pourquoi ils sont sauvés. Ils disent, ben moi, je connais bien Marc Lecomte, moi, je connais bien Claude Houde. Là, ils donnent des références sur d'autres personnes, sont bien chums avec d'autres personnes, mais eux autres n'ont aucune idée que le salut par la foi en Jésus. On les accepte pas pour prêcher à la radio, ça c'est sûr. Non, mais ça fait de la peine, là. C'est quelque chose. Des gens assis dans des églises évangéliques dans la région de Montréal. Des grandes assemblées qui prêchent la vérité. Mais les gens qui sont là, ils écoutent les prêches, là, puis ils comprennent pas ce que les prédicateurs enseignent. Ils sont liés. Puis si les personnes n'en le partagent pas, personne ne va savoir qu'ils sont dans ces ténèbres-là. Puis si la personne n'accepte pas qu'on prie pour elle, puis en lui exposant la vérité, elle ne sera pas délivrée. Il va rester lié. Il va être capturé dans ce mensonge-là. Puis c'est un autre esprit qui mène sa vie. Puis ils sont parmi vous, mais ils n'étaient pas des vôtres. Ça, c'était ça qui est écrit dans un des versets. Il faut faire attention des gens qui nous entourent, puis pas prendre comme du cash tout ce qu'on entend tout le temps. Il faut aller vérifier dans la Bible si c'est biblique. Peut-on prêcher des doctrines sans voir l'Esprit Saint? Oui, les religions le font toutes. Les religions, là, ils n'ont pas l'Esprit Saint, puis ça prêche à tous les semaines. Ils sont capables de dire des affaires sur Dieu, même sur Jésus, mais ils l'expérimentent pas. Ils ne marchent pas en communion avec cet esprit-là. Ils l'ont jamais reçu. La Bible est claire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans Romains 8, 9 que ça nous dit ça. Pour vous, si vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est une manière de discerner s'il est vraiment un enfant de Dieu. Il a-tu reçu le Saint-Esprit? S'il l'a pas reçu, c'est un faux prophète, un faux frère. Puis il est important qu'on prenne du temps avec ces personnes-là. Dernier point, bien vitement. Cinquième point pour discerner les faux. Pratique-t-il les commandements du Seigneur? Vous allez dire, mais c'est Jean qui en parle. 1 Jean 5, le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ça veut dire, si je dis que j'aime Dieu, mais pour dire ça là, en pratique, ça consiste de mettre en pratique ce que Dieu me dit. Ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 3, dans la même idée, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, regardez bien celle-là, c'est la conclusion de ce sujet-là. C'est par le verset 10, 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu puis les enfants du diable. Quiconque pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Tu veux savoir si c'est un enfant de Dieu ou un enfant du diable? Pratique-t-il la justice? Pratique-t-il la parole de Dieu ou c'est une personne qui est toujours en train de pratiquer le péché? Ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne tombe pas dans le péché. Tu tombes, tu le confesses, tu te relèves. Pratiquer le péché, c'est de vouloir rester dedans. Quelqu'un qui a l'amour du péché, puis il veut pas s'en sortir, lui, il l'accepte, puis ah ouais, let's go, puis il se repent jamais. Mais celui qui a la semence de Dieu, qui est vraiment un enfant de Dieu, va haïr le péché, puis ça va être une lutte jusqu'à la fin de sa vie contre ses péchés. T'en fais un, tu demandes pardon, puis le sang de Jésus, son Fils, te purifie de toute iniquité, puis il te libère. Puis il te guérit, puis il te délivre, puis ta vie change. Tu restes pas, tu demeures pas dans le péché. Les enfants du diable demeurent dans le péché. Puis tu regardes ces soi-disant prédicateurs de miracles, puis tout ça, ça vole le peuple de Dieu, ça gaspille l'argent. J'en ai vu, là, qui gagnaient qui ont dépensé, avec ça que je l'ai pas vu de mes yeux vus, mais je l'ai vu par des témoignages de d'autres personnes qui les ont racontés, et plus qu'une personne, des dépenses folles de se louer des chambres de motel de 10 000 piastres la nuit, pour lui et pour toute son équipe, puis ils sont achetés un troisième jet privé. Ils volent les brebis, ils volent l'argent du Seigneur, ils gaspillent, ils pêchent. Pensez-vous que Dieu ne leur fera pas rendre compte? Jamais Dieu a voulu ses serviteurs marchent dans la volupté, puis dans les plaisirs, puis dans les délices, dans ce genre-là, de faire bonne chère, puis de pécher en gaspillant l'argent du Seigneur. Après ça, ils condamnent le peuple de Dieu, donnez par la foi, endettez-vous, puis là, ils ramassent cet argent-là, puis ils vivent dans des perversions. C'est du péché. C'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça. Comme conclusion, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça se voit. Si nous passons les 5 tests, nous savons que nous sommes entièrement à Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous voyons nos frères passer ces tests, reconnaissons-les pour nos frères, puis laissons plus Satan mettre les doutes dans notre cœur, puis aimons-les, puis aidons-les dans leur marche chrétienne. Hein? Puis s'ils passent pas les tests, les gens qui nous entourent, s'ils passent pas le test de ces 5 analyses-là, nous devons utiliser les armes de Dieu pour les amener à la repentance par la prière, la parole de Dieu, etc., et nous mettre sur nos gardes afin de ne pas tomber dans leur piège, parce que l'esprit de séduction est puissant et plusieurs sont tombés. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Faut que tu fasses attention. Faut que tu fasses attention quand tu vas reprendre quelqu'un pour pas être toi-même tenté dans sa menterie. Parce que lui va te raconter, j'ai vécu un rêve, j'ai évité telle affaire, puis c'est tout du mensonge, tu t'embarques là-dedans, tu vas te faire tromper par cet esprit-là. Une fois qu'ils sont discernés, nous devons réagir comme la parole de Dieu le dit. Qu'est-ce que ça nous dit? Mettons, là, tu rencontres des faux prophètes qui viennent pour t'enseigner un autre évangile, un autre esprit. Quelqu'un qui vient ici puis comprend pas le plan du salut, au moins ils viennent pour entendre. Ils viennent pas pour essayer de convaincre tout le monde dans leur menterie. Là, s'il vient pour entendre, c'est parce qu'il veut apprendre. Il est ouvert. Là, il écoute les messages. Puis là, tu peux le recevoir, partager avec lui. Puis là, tu vas voir qu'il va finir par faire la prière avec toi. Mais si c'est quelqu'un qui vient d'une autre religion, puis là, il essaye de te convaincre dans son affaire. Qu'est-ce que Dieu dit dans 2 Jean 1, le verset 9? C'est le dernier verset. 2 Jean. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est encore Jean, l'apôtre de l'amour, qui a dit ce verset-là. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin puis demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10, le plus important. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté cet été. Témoins de Jéhovah sont venus cogner à ma porte. Ils me disent, je les ai pas fait rentrer, j'ai sorti sur le perron, j'ai essayé de leur faire comprendre la vérité. Là, ils me sortaient vers ça de la tour de garde. Non, la parole de Dieu dit ça, ça, ça. Quand on a fini la discussion, ils voulaient rien écouter. Bon, là, ils s'en venaient pour me donner la main. Je donne pas la main, puis je lui dis pas salut. Hein? Moi, non, je les ai pas écoutés. Moi, je lui ai dit. Ah non, pas le coup de pied. Elle m'a dit de donner un coup de pied à personne. Non, Dieu n'a jamais dit de donner un coup de pied aux personnes, mais il dit de secouer la poussière de vos pieds, par exemple. Puis de leur dire que le royaume de Dieu s'est avancé. Dieu veut pas qu'on les fasse rentrer dans notre maison, puis qu'on leur dise « Salut, là, oui! » Puis on leur donne la main, quasiment des accolades. C'est ce qui est en train de se passer avec l'écuménisme. Les gens sont écuméniques avec les catholiques, sont écuméniques avec la religion islamique, les musulmans. Les chrétiens sont écuméniques avec les musulmans. C'est rendu brotu-brotu, on est tous frères, on a tous le même Dieu. Puis on marche dans l'amour, puis on marche dans la vérité. C'est pas de Dieu du tout. Le Dieu nous dit, si tu prêches pas Christ, là, puis la sainte doctrine, là, Dieu est pas avec eux autres, puis reçois-les pas dans ta maison, puis dites-leur pas salut. Je sais que ça paraît dur, ça paraît sévère, ça paraît être un manque d'amour, mais c'est le contraire. C'est le disciple de l'amour qui dit de faire ça. C'est écrit dans Jean. C'est Jean, le disciple de l'amour qui a dit de faire ça. Puis c'est de cette façon-là que la parole de Dieu va avoir un effet dans leur vie. Prions. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on s'approche devant toi. On te remercie pour ta parole, que tu nous montres qu'est-ce qui se passe autour de nous ne vient pas tout de toi. Toutes les faussetés qui sont véhiculées, les fausses doctrines qui essayent de s'opposer à la vérité de ta parole, Seigneur. Seigneur, garde-nous afin qu'on ne tombe pas là-dedans. Qu'on puisse être capable de rejeter le mensonge puis de rester, de demeurer dans la vérité. Qu'on demeure en communion avec ton esprit, en confessant Jésus, en gardant ta parole, en marchant dans l'amour, en pratiquant ta parole, tes commandements. Qu'on puisse garder cette fermeté jusqu'à la fin. Je te demande de toucher chaque brebis qui sont ici. Je te demande de toucher les cœurs de ceux qui t'ont pas encore reçu comme leur sauveur personnel. Je te demande de faire un œuvre pour que leurs yeux s'ouvrent, brise leurs chaînes et leurs liens, qu'ils puissent s'humilier puis demander de l'aide pour être éclairés, pour recevoir ta vérité. Je les remets entre tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.